Merci Tiffaine, bon week-end. Aujourd'hui, trois invités, des chansons, un prophète, un traité de bave et d'éternité et des soulèvements avec Arthur H pour un éloge de la fugue en trois temps et Nicolas Liucci-Goutnikov et Christina de Simone pour une révolution lettriste du côté d'Isidore Isou.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Arthur H, Nicolas Liucci-Goutnikov, Christina de Simone, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
À tous les trois, à première vue, réunir l'auteur des albums Négresse Blanche, Mystique Rumba, Pour Madame X, Adieu Tristesse, Baba Love et tout fraîchement, Amour Chien Fou et la figure, disons, au moins, au minimum, furieuse d'Isidore Isou ne semble pas aller de soi, quoique, comme on le verra, Isidore Isou, auquel le Centre Georges Pompidou consacre une exposition, Isou, le fondateur et prophète du lettrisme, le messie autoproclamé, Isou, l'inventeur monumental de la créatique, des lois de l'amplique et du ciselant, de la méca esthétique, de l'hypergraphie, de l'exocordisme, du principe supertemporel, Isou, le graphomane aux plus de 200 livres, au manifeste, au traité, au concept totalisant, appliqué à tout, c'est-à-dire à la poésie, à la mathématique, à la médecine, au cinéma, à la danse, à l'architecture, à l'économie, à la peinture. Isou, le juif roumain, arrivé en clandestin en France un jour d'août 45. Isou, cadet de 12 ans, je crois, du poète Gerasim Louka, autre boxeur du langage. Gerasim Louka, comme ça tombe bien, on retombe sur nos pattes et sur Arthur H, que vous avez mis en voix et en musique. C'était avec Prendre Corps pour l'album Baba Love en 2011. Louka, donc, que vous avez chanté, Arthur H, comme vous avez dit, les poèmes érotiques de Bataille, de Louis, de Breton, d'Apollinaire, Louka, à nouveau, ou encore ceux de Césaire, de Glissant, de Pestre, le temps de deux albums, L'or d'Eros et L'or noir, co-signé avec Nicolas Repac. Et aujourd'hui, paraît Fugue, aux éditions Mercure de France, un texte autobiographique calé sur deux récits de fugue et un dialogue avec Jean-Sébastien Bach, le maître en la matière. On aurait pu commencer par lui, mais on commence par là.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe. La boxeuse amoureuse.
La boxeuse amoureuse, vous l'avez reconnue, extrait de votre dernier double album Amour Chien Fou. Arthur H, c'est par elle, en tout cas par cette boxeuse amoureuse, que vous ouvrez Fugue, puisque c'est un texte qui est écrit en fils et qui paraît aux éditions Mercure de France. Vous y écrivez « À ma mère, la belle boxeuse amoureuse pour son art de la fugue et son goût de la liberté ». Qu'est-ce qui avait précédé quoi ? C'est la chanson « La boxeuse amoureuse » ou ce récit de fugue ?
Non, j'ai créé cette chanson effectivement il y a 2 ans en pensant à ma mère, et après j'ai eu la possibilité de faire ce livre qui est dans une collection qui s'appelle 13 et portraits, qui est autobiographique mais libre, avec un peu d'iconographie. Et ça m'intéressait pas trop de parler de moi, spécialement. Et du coup, comme la forme était très libre, et que ma mère venait de me raconter cette histoire que j'ai trouvée vraiment extraordinaire de sa fugue en 1958, je me suis dit... Voilà,
le 27 mars, pour
ouais,
être précis.
Le jour de ses 18 ans. Ouais.
Ça veut dire qu'elle ne vous avait pas parlé de cette fugue au moment de la vôtre ?
Pas du tout.
Qui aurait pu vous alléger votre culpabilité ?
Moi, je me suis pas senti trop coupable, malheureusement. Enfin, moins qu'elle, en tout cas. C'est, le contexte est très différent. Elle a quitté un milieu qui était, enfin, pas hostile, mais qui était beaucoup plus dur, quoi. C'était un milieu ouvrier, comme ça, très enfermant, avec beaucoup d'amour aussi, mais quand même assez cadenassé. Et elle l'a quitté de manière assez violente, quand même. C'est-à-dire qu'elle s'est enfuie, donc le soir de ses 18 ans, sans donner aucune nouvelle. Sa mère était malade, en plus, ça rajoutait quand même une bonne couche de culpabilité. Moi, c'était quand même plus psychédélique, hein, plus facile, entre guillemets, quoi.
Vous avez pris moins de risques?
Ouais, j'ai pris moins de risques, puisque déjà, c'était une femme à l'époque, dans les années 50. Je pense qu'à cette époque, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui étaient, malheureusement ou heureusement pour elles, très en avance sur l'OTAN, qui avait 30 ou 40 ans d'avance. Elles étaient déjà modernes, mais le milieu dans lequel elles évoluaient était extrêmement strict et fermé, bloqué. Surtout qu'on était une femme et ma mère littéralement étouffait dans cette banlieue d'Argenteuil, cette petite banlieue ouvrière où il n'y avait pas de culture, pas d'ambition et surtout aucune ouverture, aucune possibilité de sortir de son milieu. Donc, avec ses amis, ils ont décidé que la seule façon de se libérer, c'était de s'enfuir, en fait.
Alors de s'enfuir, ouais. Idéalement, alors via la Corse, pour embarquer sur un radeau vers Tahiti.
Oui, parce que en fait, leur idée assez belle quand même, qui m'a frappé aussi, parce que j'ai trouvé extrêmement poétique, c'est que quand ils se réunissaient, ces six amis là, sans parler à aucun adulte et tout ça, ils se sont à un moment, ils ont eu l'idée fantastique de dire où on peut aller si on s'enfuit, Tahiti quoi. Tahiti, c'était vraiment l'endroit magique en fait où aller. Mais c'est vrai qu'Argenteuil, Tahiti, c'est pas simple, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de connaissances, qu'on a rien en fait. Du coup, ils ont décidé d'une escale qui était la Corse, qui était un endroit pour eux aussi assez sauvage où ils pourraient se cacher pour construire un radeau qui les emmènerait à Tahiti.
C'est une affaire sérieuse, la fugue, écrivez-vous, Arthur H. Et c'est aussi donc une affaire de musique. Parlez de votre mère à Bach, même en hologramme, qui vous apparaît donc un soir d'écriture. Ouais, Est-ce que ça vous semblait une évidence?
C'est vrai que normalement, je ne devrais pas parler de ma mère à Jean-Sébastien Bach, vu qu'il est mort. Et puis que... Mais j'aime bien l'idée d'apparition, en fait, et puis de prendre des libertés narratives aussi. Et donc je lui raconte les deux fugues, il m'apparaît, parce que lui, c'est un esprit qui donc évidemment habite dans un autre monde, dans une autre dimension, et il a besoin d'idées, d'histoires, ça pour continuer à composer, parce que Bach dans l'autre monde continue cette espèce de production fabuleuse qu'il a toujours fait dans sa vie physique. Il a continué dans d'autres dimensions, et dans la vie physique, il avait l'accroche des fêtes religieuses. Chrétienne, bon, les cantates et tout ça, et donc il était obligé de composer sans arrêt, sans jamais s'arrêter de composer, ce qu'il a fait toute sa vie. Et dans l'autre monde, c'est la même chose, donc il a besoin de prétexte aussi, donc il a envie que je lui raconte cette histoire, et aussi ma propre fugue, parce que ça lui donne des noms, parce que ça lui donne une énergie, ça lui donne un élan, et qu'il a toujours besoin de matière à recycler pour produire de la musique.
Qu'est-ce que ces deux fugues à lui, parce qu'évidemment, il a eu les siennes, une à 15 ans, une à 20 ans, qu'est-ce que ces deux fugues à lui vous racontent, à vous ?
Derrière la statue, le personnage historique, il y avait quelqu'un de normal et quelqu'un qui a aussi essayé de sortir de son milieu d'une certaine manière et puis qui effectivement a fait ces deux voyages à pied. C'était pas des fugues, parce qu'il s'est pas enfui, mais il a quand même traversé l'Allemagne à pied... Dans une forme d'aventure, à 15 ans, quand il était... il habitait... Alors, je juste raconte très brièvement. À 9 ans, sa mère est morte. Et à 10 ans, son père s'est remarié avec une femme qui était déjà une double veuve. Et son père est mort 6 mois après son mariage. C'est une triple veuve. C'était un peu la norme à l'époque. Ça n'arrêtait vraiment pas du tout de mourir autour de vous.
Beaucoup jamais, de morts autour de Bach, en tout cas.
Donc, il s'est retrouvé chez son grand frère, qu'il connaissait à peine, qu'il a formé vraiment à la dure musicalement. Et à 15 ans, son grand frère l'a dit, bon, maintenant, je peux plus te nourrir. Tu pars. Donc, il a trouvé une école dans le nord de l'Allemagne, qui prenait des jeunes gens très pauvres, qui avaient une belle voix. Voilà, c'était ça. Donc, il est parti à l'aventure avec son copain, marcher 400 kilomètres à pied, comme ça. Et je trouvais que là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la fugue, quoi, vraiment.
Ouais. Alors, Bach, avec qui vous finissez par... Enfin, vous commencez même par converser dans une langue, disons, augmentée. Hein, allemand, français, enfin, anglais.
Ou diminué.
Ou diminué. À qui vous confiez donc ces deux fugues, c'est-à-dire celle de votre mère et la vôtre, alors que vous êtes aux Antilles 24 ans plus tard, hein, puisque cette fugue-là, vous avez 15 ans et vous refusez de prendre l'avion à l'aéroport, en fait. Vous filez en douce et vous restez aux Antilles pour quelques temps. J'en reviens à Bach, Arthur Hache, que vous tentez de jouer, alors je ne sais pas si c'est pour les besoins du récit ou pas, que vous tentez de jouer, dites-vous, dans une souffrance délicieuse. Qu'est-ce qui fait souffrance et qu'est-ce qui fait délice à jouer l'art de la fugue? Parce que c'est évidemment de l'art de la fugue qu'il est question.
Parce que tout simplement c'est très difficile à jouer. Bach, c'est surtout l'art de la fugue, c'est quelque chose qu'il a produit pour lui-même, contrairement à toute sa production habituelle des cantates, ça qui faisait pour des raisons officielles. Là, il l'a fait comme une espèce de recherche personnelle très abstraite. Non, j'ai commencé à la jouer, effectivement.
Et qu'est-ce qui l'a rendu difficile à jouer, alors?
Il y a 4 voix, en fait, dans l'art de la fugue. C'est 4 voix qui s'entremêlent tout le temps. C'est un espèce de flux très changeant, comme ça. Il n'y a pas le style à l'italienne de l'époque, c'est une mélodie, un accompagnement. C'est 4 voix qui sont leur propre mélodie, qui ont leur propre indépendance, leur propre liberté, et qui résonnent avec elles. Donc c'est une espèce de flux dans lequel il faut rentrer, et qui est absolument magnifique, mais qui est complexe.
Vous voulez bien nous lire ce que vous en écrivez dans les débuts, dans le premier chapitre donc, de Fugue, Arthur Hache.
Je parle de l'art de la fugue. La musique est l'art de l'espace. Littéralement, le flux sonore ouvre l'espace, le déflore, le densifie ou l'allège. Organiser les sons est le moyen que les humains utilisent pour nettoyer l'air, rendre sa surface intime et fluide, pour mieux faire voyager les idées, les émotions, les intuitions. La musique est une image de l'espace intérieur de l'homme. Elle l'agrandit, le purifie, donne une direction à son énergie. Elle le prépare ainsi à recevoir et échanger de nouvelles informations. C'est une brise légère qui chasse les humeurs fétides, nettoie le corps subtil. En plus du plaisir intense qu'elle procure, elle participe à la santé globale de la personne qui s'abandonne à elle. Être plus réceptif, plus disponible, plus dynamique, c'est être potentiellement plus libre. L'art de la fugue est l'art de la liberté. Mais la liberté n'est pas une ligne droite. Elle serpente à sa convenance. L'art de la fugue est un labyrinthe dont les murs sont souples, liquides, quantiques. Le labyrinthe est imprévisible et il change de forme constamment. Il n'existe aucune façon logique d'en sortir. Une fois que vous êtes perdu à l'intérieur, que vous êtes correctement propulsé dans la ronde sonore, que vos pieds et vos mains ne se raccrochent plus à rien, il n'y a plus d'autre choix que de s'abandonner aux lignes musicales qui dévorent le temps et l'espace. Eh bien, c'est Bach, et lui seul, qui soudain dévoile la porte secrète qui mène vers la sortie du labyrinthe. Mais cette fin n'est qu'une respiration, un silence pour entendre la résonance du flux, qui poursuit sa route étoilée, bien sûr. Le flux ne s'arrête jamais, il ne le peut pas. Il se suspend et se retient pour mieux jouir de l'inertie de la vitesse qui l'emporte vers de nouvelles perspectives, de nouveaux paysages, pour profiter du mouvement continu qui trace une infinité de lignes dans le ciel intérieur. La nuit, la terre n'arrête pas de tourner.
Merci beaucoup. Délice et souffrance au piano, disiez-vous, Arthur Hache, pour cet art de la fugue. Au piano, votre instrument, même s'il est arrivé un peu tardivement, je crois, à l'adolescence, toujours elle. C'est le piano qui vous fait écrire?
Le piano, c'est une machine mystérieuse sur le, qu'on tape, qu'on caresse, dont on peut sortir des choses très très abstraites, très brutistes, on peut sortir des mélodies romantiques, on peut un peu tout faire dessus, je trouve que c'est une belle machine parce qu'elle est sans fin en fait, il y a toujours quelque chose à sortir d'un piano et chaque piano est différent. Autant un ordinateur est l'image de notre cerveau, quelque part, une extrapolation de notre cerveau, autant un piano, c'est l'image de notre corps en entier, quoi, notre corps qui résonne, qui vibre. Voilà, je trouve que c'est une machine qui a une âme et dont on n'a pas fait le tour encore, quoi.
Le piano, c'est aussi, j'imagine, un corps. En tout cas, c'est une posture, c'est une façon de se tenir,
ouais.
C'est une contrainte.
Ouais.
Comment est-ce que vous avez... apprivoiser cette contrainte-là, ou en tout cas, parce que maintenant, ça fait, disons, 30 ans, à peu près,
ouais.
Que vous avez commencé à chanter. Et donc, ça vous assigne aussi à un corps, hein, Arthur Hache,
ouais,
le
complètement,
piano.
Ouais, c'est la transformation du corps, quoi. Bah, à travers la poésie, ou tout ça, la poésie, la musique, le piano, pour moi, c'est des façons, effectivement, de se construire un corps, en fait. Un corps qui résonne, qui vibre, qui rentre en résonance. C'est vrai que le piano lui-même est un corps qui vibre, donc on s'adapte. C'est un mouvement sans fin, en fait, ouais, c'est ça, de transformation.
Tout à l'heure, on écoutait la boxeuse amoureuse, hein, et cette voix parfois très élastique, hein, qui grimpe, cette voix claire, hein, très claire, qu'on entend depuis un petit moment maintenant chez vous, que vous avez commencé à travailler, je ne sais pas, peut-être ça devait être autour d'Adieu Tristesse, ou peut-être
un petit peu avant,
vous, qu'on continue pourtant inlassablement à, d'associer à une voix de rocaille, là je relisais un peu plein de papiers
oui,
sur
bon,
vous, une voix de whisky, tabac, de bar, hein, ce qui est très très loin de vous. Cette voix-là, celle qui chante, hein, celle qu'on entendait, celle qui grimpe dans les aigus, celle qui s'éclaircit. À quel moment est-ce que vous l'avez trouvée ou entendue? Est-ce qu'elle a tardé à venir? Est-ce qu'il a fallu attendre quelque chose pour que cette voix-là arrive?
Bah, je suis la preuve que quelqu'un peut de complètement bloqué peut se débloquer, parce que j'avais l'idée en moi d'une voix libre comme ça, mais mon corps ne le permettait pas parce que j'étais tout simplement trop tendu ou trop névrosé ou trop je sais pas quoi, en tout cas trop fermé en fait. Et puis depuis tout le temps, il y a la notion de vide qui m'intéresse, d'être le plus vide possible. Et vide, c'est détendu, parce que sinon le vide est contraint, il est comprimé. Et du coup, voilà, je me vide au fur et à mesure, je suis de plus en plus vide. Et puis j'adore être dans une grande salle de théâtre qui est vide aussi, et sentir la musique qui s'envole. Et effectivement, comme ma voix était très très limitée, j'ai à un moment décidé intérieurement qu'un jour j'aurais une voix libre, c'est-à-dire que je pourrais chanter très très fort, je chante parfois très doucement, je chante très aigu, je chante très grave. Voilà, je suis pas encore totalement libre avec ma voix, mais parfois je la laisse comme par exemple si j'avais un animal sauvage et tout d'un coup j'aurais décidé de lâcher la laisse. Et de dire bah vas-y balade-toi, puis si tu tues quelqu'un mais c'est pas grave, tu reviendras, c'est parce que c'est de la poésie, c'est un événement poétique. Et voilà, j'ai décidé d'essayer d'être dans cette idée et cette réalité de laisser ma voix sauvage faire ce qu'elle a envie de faire.
Voilà. C'était quel animal alors, pour poursuivre la métaphore, au tout début quand vous démarrez cette voix?
Je sais pas, il y a des petits animaux très stressés là qui arrêtent pas de bouger. C'était un peu ça. Ouais. J'étais un faux calme. Il y a des races de calme qui sont très très nerveux en fait. Moi, c'était mon cas.
Alors, à propos de voir, Arthur Hache, à vous lire, une chose frappe en dehors de votre goût de la joie, c'est cette balance que vous évoquez sans cesse entre deux pôles, hein, souvent il est question de alors lune et soleil, urbain organique, comme une grille qui aurait à faire avec le chaud et le froid, qui sont en fait des champs sémantiques qui reviennent souvent, notamment dans les entretiens que vous donnez. Et c'est curieux parce que lorsque je vous ai demandé ce que vous vouliez nous faire entendre aujourd'hui, vous avez suggéré ceci.
You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds, by the way.
j'imagine que tout le monde aura reconnu la voix de Johnny Rotten. Et vous avez demandé, ça c'est pour le côté froid.
Ouais.
Et vous avez demandé également cela.
The diamond don't deal in no kind of hearsay.
Hearsay.
Back away with that and come straight. If you are come.
If you are come, you are come.
Say them are the general. Them are the big chief.
The big chief.
But the winning card in this game is how you got it.
Is how you got it.
Remember. Là, c'est The Gladiators. Hearsay. Alors. Vous allez me dire, Arthur Arache, c'est lié au livre dont on est en train de parler, mais
ouais.
Pas seulement cette question du froid punk et puis du show côté Gladiators. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez choisi votre camp où ces deux températures-là vous travaillent encore?
Ah bah oui, je n'avais pas pensé, mais effectivement, c'est vrai que l'adolescence, c'est effectivement une période très très marquante où comme ça, on s'imprègne d'émotions très fortes que finalement, on essayait de reproduire toute sa vie ensuite. Et là, bon, Peel, donc le groupe qu'a monté John Lydon après les Sex Pistols, c'était vraiment la froideur absolue, quoi. C'est hyper méga froid, c'est vraiment l'Angleterre lugubre, quoi. C'est l'Angleterre glauque, tu peux pas plus glauque que ça, avec une forme de désespoir, parce que comme si le punk n'avait servi à rien, quoi. Déjà, le punk était une forme de désespoir, mais assez joyeux quand même. Et après la Cold Wave, alors la Cold Wave, ça rigole pas du tout. Puis moi, ça correspondait quand même à l'idée que je me faisais de Paris à l'époque, effectivement extrêmement très très froide. Alors est-ce que ça m'influence toujours maintenant? Peut-être. Ouais, à travers. Pile après, il y avait une espèce de mélange avec la basse du reggae, du dub, des musiques quand même très très hypnotiques. C'était aussi avant la naissance de la techno, de l'électro. Quelque chose de très répétitif, très hypnotique, qui m'a toujours marqué, que j'ai toujours essayé de reproduire dans ma musique, surtout sur scène, bien sûr.
Je voulais vous demander, Arthur H., est-ce que vous voudriez bien nous faire lecture? Alors, parce que par ailleurs, donc, sort aux éditions Point Seuil, La musique des mots, l'intégrale des chansons, 2018, donc c'est bien ce que je disais, 30 ans donc, préfacé par Delphine de Vigan. Est-ce que vous voulez bien nous en lire une de chansons?
Ouais.
Alors, je pensais à une en particulier. Vous me dites si ça vous semble possible ou pas. En l'occurrence, c'est un extrait du dernier double album qui s'appelle Inversion mélancolique.
Ah oui, c'est tout simple. Encore ce vieux truc qui remonte à la surface. Une tristesse comme du surplace. N'aie pas peur, je garde la distance. Je cultive même l'indifférence. C'est une inversion mélancolique, comme une brume qui s'efface à l'aube sur la colline en face. Je sens ta chaleur contre moi, mon amour, ne te réveille pas, tout va bien, rendors-toi. N'aie pas peur, je garde la distance, je cultive même l'indifférence. C'est une inversion mélancolique, une inversion mélancolique.
Merci. Lire ces textes-là, sans musique, c'est lire quoi ?
Bah, qu'on connaît des chansons, je trouve ça quand même chouette de pouvoir se faire la musique, se créer une musique intérieure. Et puis il y a plein de petites histoires, de petits contes. Il y en a des très simples, des plus compliqués, des longues, des courtes, des haïkus, des grands machins.
Alors là, Arthur H., on vous a entendu lire ce que vous avez fait à plusieurs reprises, y compris dans les albums que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui étaient L'Or Noir et L'Or d'Eros, qui étaient où votre voix était posée sur de la musique, mais il s'agissait de lecture.
Ouais.
Alors, à une exception près, c'est Gerasim Luka, dont vous avez repris un poème enregistré deux fois en fait, une fois dans L'Or d'Eros et puis une première fois dans un album. Qu'est-ce qui avait imposé, en tout cas pour ce qui est de Gerasim Luka, cette fois le chant, ou alors qu'est-ce qui avait pu empêcher le chant chez tous les autres?
Gerasim Luka est souvent rythmique, il est très musical, vraiment. Donc, quand j'ai lu Prendre Corps, pour moi c'était une chanson, c'était évident. Je me suis mis au piano, j'ai composé une chanson en très peu de temps parce que voilà, la musicalité du texte et c'est vraiment imposé, quoi.
Ça donnait ça. Que vous avez lu, parfois sur scène, parfois enregistré. Je pense à notamment une soirée il y a peu à la Maison de la Poésie, Arthur Hache, où vous aviez réuni Tarkos et Gerasim Louka, le temps d'une soirée. La poésie, pour vous, c'est d'abord ou c'est forcément une forme déclarative, c'est-à-dire elle en passe forcément par le corps, elle est forcément à voix haute.
Ah non, pas du tout, non. Enfin, il y a toutes sortes de poésies et ça peut être effectivement très intime et aussi il y a des poésies qu'on ne peut pas lire et qu'on ne doit pas lire et c'est très bien aussi.
Vous pensez à quoi ?
Je sais pas, n'importe quoi, des choses qu'on doit vraiment intérioriser, quoi, des rythmes très très intérieurs. Et puis il y a effectivement des poésies qu'on peut découvrir en les lisant. Alors Tarkos et Lucas, c'est vraiment des poètes qui me touchent beaucoup, et qui sont très insolents, ils jouent beaucoup avec la langue. Il y a quelque chose sur le bégaiement aussi, sur une espèce de violence très très contenue comme ça, qui arrête pas de bégayer, qui moi me parle beaucoup. Et après, pour répondre à votre question, Aimé Césaire, j'avoue qu'au début, vraiment, pour moi, c'était vraiment très très obscur quand j'ai commencé à les dire. Et à force de les dire, justement, j'ai commencé à rentrer dans le texte. Et à la fin, c'était d'une limpidité extrême. C'est-à-dire que chaque mot, chaque phrase me parlait de quelque chose de très précis, très intime. Mais il a fallu le dire, justement, le sortir pour avoir accès à ces informations-là que je pense j'aurais jamais eu en les lisant simplement comme ça à voix basse.
Quelle est la difficulté alors à se glisser dans des voix qui sont aussi identifiées que celles de Gerasim Louka et de Christophe Tarkos, c'est-à-dire que ce sont vraiment des poèmes qu'on identifie à des corps à eux, à leur voix à eux, à leur façon à eux de le dire, et qui l'un et l'autre semblent, enfin, je me trompe peut-être, mais semblent s'arrêter vraiment à la limite, vraiment juste avant la séduction, enfin même pour ce qui concerne Louka, ça peut lui arriver même parfois de jouer de cette séduction par la voix. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous méfiez, vous aussi ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour se glisser dans ces deux voix-là ?
Déjà, leur poésie est quand même assez puissante, assez ouverte pour être reprise dans plein d'interprétations différentes. Mais Louka est... Je sais pas, je pense qu'il faut aussi, faut pas oublier que c'est des gens qui s'amusent avec la langue. Donc, être dans la séduction, c'est pas grave. On peut l'être, on a le droit d'être dans la séduction. C'est pas non plus un péché, quoi. On peut être dans la séduction.
J'ai pas dit ça.
Et puis après, être dans l'insolence, et puis après, détruire le texte. Enfin, les deux, ils ont envie de dynamiser la langue. C'est vraiment des deux bâtons de dynamite vivants qui font exploser la langue. Donc, moi, ça me parle beaucoup, j'adore ça. Donc, si j'ai envie d'être sensuel, je peux être sensuel. Et puis, si j'ai envie d'être ému, je peux être ému. Puis, si j'ai envie d'être froid, je peux être froid. On peut faire ce qu'on veut, en fait.
Encore une affaire de température.
Ouais.
Autre dynamite hein, dont on va parler tout de suite, qui pourrait peut-être vous donner des idées, Arthur H.
Gyan likidan likidan bar likidin likidin bin yango songyar yango songin yango songin hakonjal balgal hakonjal balgal hakonjal balgal gyan hakonjal balgal hakonjal balgal hakonjal balgal gyan.
Now I wish you'd explain to us, if you would please, about these new sounds. You found some quite new letters, as you'd call these sounds, haven't you?
That's right. Yes, we
such as, for example,
like,
letters.
You have things like Well, but you use this letters mixed with letters like A, O, B, C.
Yeah, and you had some like one
and you have
like
well that one.
Yeah.
That I have one like this. Nadidao. La 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 la.
And that's a complete letter?
Yeah, it's a mixture of letters and rhythm and different of strength in
do that
the
again,
way of saying.
But in a few words.
Well, you see, my friend and I, we were looking for a new poetry, let's say a new style in poetry. We studied the history of poetry. We were sort of disappointed by surrealist poetry. And then we invented this sort of new poetry using only letters, writing symphonies or poems, what we call letters. Just with these letters.
Just with the letters?
That's right.
Let's have another little fragment. Neige. This poem about the snow.
Okay. Neige. Knei, knei, trnakapata, trnakapata. Hey, hey, tragarate, tragarate. Gochlach, ochlach, laf, lachan.
Kum quelque zozo, binimini-la, binimini-la. Kum quelqu'un, magabambaba, magabambaba. Togetigusta.
Beaucoup de voix. Mais on va rentrer dans le détail. Un extrait de Saint-Germain-des-Prés, l'un des petits films à réaliser autour du monde par Orson Welles en 1955. Donc c'est Orson Welles qu'on entendait.
Ah ouais.
C'est également Maurice Lemaître qu'on entendait, celui qui parle en anglais. Et celui qui ne parle pas, ce qui est bien étonnant, étant Isidore Isou, mais qu'on entend dire un poème sur la fin, juste avant que Gabriel Pomerant ne commence également à parler. Voilà, donc ça c'est un peu pour dire qui étaient les protagonistes de ce petit film. En anglais, que l'on peut voir dans l'exposition Isidore Isou qui se tient actuellement au Centre Georges Pompidou, dont vous êtes le commissaire, Nicolas Liouchi-Goutnikov. Le lettrisme présenté par Welles comme la poésie à la mode à Saint-Germain-des-Prés, donc là on est en 55, le lettrisme est né en 46, en janvier même je crois, pour être précis. Avant d'en venir à Isou, aux lettristes, qui commencent donc à définir leur territoire presque 10 ans plus tôt, en 55, où en est-il à ce moment-là puisque Orson Welles parle d'un mouvement à la mode, est-ce que ça veut dire qu'il est déjà sur le déclin, Christina de Simone?
55, c'est déjà après deux scissions importantes que le lettrisme a subi. Donc il y a eu la fondation de l'International Lettriste par Guy Debord, Gilles Givolman, Serge Bernat, Jean-Louis Brault. Et puis une autre scission aussi autour d'une revue qui s'appelait Le Soulèvement de la Jeunesse avec Marco, François Dufresne, Yolande Deloire. Et donc à ce moment-là, le lettrisme a perdu quand même énormément de personnalités qui en ont fait aussi une force, aussi une puissance de la déclamation. Donc là, quand on entend le lettriste, eh bien c'est une phase après où effectivement le lettrisme avant, dans les années, fin des années 40, début des années 50, c'était vraiment un peu une irruption dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Comment les lettristes marquent ce territoire, justement, puisqu'on en est à Saint-Germain-des-Prés, qui est vraiment leur terrain de jeu, qui va être leur terrain de jeu dès le départ, dès 46. Quelles vont être, justement, leurs stratégies pour marquer ce territoire-là?
Ce sont des stratégies qui évoquent, évidemment, les stratégies utilisées par Dada, donc des stratégies de scandale. Ils vont interrompre des représentations dans différents endroits à la mode à Saint-Germain-des-Prés et ils vont donc se faire connaître assez vite à travers ces irruptions intempestives dans l'espace public. La presse va relayer abondamment dès 46-47 leurs agissements. Une coupure de presse dans l'exposition dit « Les lettristes inventent un nouvel âge atomique ». Donc, lorsque le lettrisme est lancé en 46-47, il y a véritablement une odeur très sulfureuse qui l'accompagne, celle du scandale. Ce qu'il faut tout de même préciser, c'est que si Isou lance le lettrisme avec Pomerant et d'autres, donc en 46-47, sa pensée est déjà préparée dès la Roumanie, dès son très jeune âge, puisque nous montrons dans l'exposition des archives que nous avons acquises récemment, qui sont notamment les cahiers de jeunesse d'Isidore Isou, où on se rend compte que dès ses 17 ans, en 1942, Isidore Isou commence à écrire sur la poésie. On se rend compte qu'il a intégré certaines conclusions de la poésie yiddish, qu'il connaît les écrits de Kaeserling sur la poésie, et puis que de façon générale, il a aussi beaucoup lu à la fois de grands littérateurs comme Joyce ou Proust, mais aussi de grands philosophes, et que donc cette pensée est déjà en puissance, prête dès la Roumanie. Et c'est donc lorsqu'il arrive à Paris et que le lettrisme est lancé, que tout cela est consolidé à travers ce grand traité qui va devenir le manifeste d'Isidore Isou, qui s'appelle « Introduction à une nouvelle poésie, une nouvelle musique », qui, contrairement au manifeste des avant-gardes précédentes, n'est pas un seul feuillet, mais déjà un ouvrage assez volumineux, où Isidore Isou va observer le cours de la poésie.
Vous parliez du scandale, on parlait de territoire, de Saint-Germain-des-Prés, et donc de toutes ces stratégies de scandale. J'imagine que la question des lettristes dans un musée s'est posée. Alors, elle ne se pose plus, évidemment, maintenant, même si, au fond, ils ont été assez peu exposés, assez peu pris en charge par les institutions. On peut même parler d'une certaine forme d'angle mort qui s'expliquerait comment, selon vous, l'un et l'autre, par la personnalité d'Isidore Isou, par le fait peut-être que, justement, Guy Debord ait recouvert un peu cette histoire-là.
En effet, le fait que certaines personnes ayant passé de façon fulgurante par le lettrisme ont pu, en partie en tout cas, s'approprier certaines de leurs intuitions théoriques. Guy Debord, de fait, a largement utilisé les intuitions d'Isou, notamment en matière politique, la place qu'Isidore Isou accordait à la jeunesse dès 1949. Mais il me semble qu'il puisse y avoir aussi des raisons beaucoup plus simples et concrètes. D'une part, peut-être, le comportement que les lettristes avaient eux-mêmes vis-à-vis de ce qui n'était pas eux, notamment d'autres artistes, d'autres critiques d'art, un comportement tout de même assez agressif, ou de même sur la défensive. On sait que pas mal de directeurs de notre musée ont par le passé reçu quelques fax assez salés de la part des lettristes. Donc ça a pu évidemment pousser à ce que ces personnes aient quelques appréhension à s'attaquer à ce sujet, mais surtout ce que je pense fondamentalement, c'est que les lettristes, et surtout Isidore Isou, qui en est quand même le grand théoricien, Isidore Isou a inventé des concepts qui sont sans doute pour beaucoup restés arcanes, obscurs, des concepts sur lesquels Isidore Isou a mis des noms qu'on ne connaissait pas, des néologismes inspirés souvent du grec. Les stapéirismes notamment, ou l'art infinitésimal, enfin, des conceptions comme ça qui paraissaient un petit peu ésotériques et qui ont pu éventuellement laisser penser à certains qu'il s'agissait de concepts vides. Or, ce qu'on montre dans l'exposition, c'est au contraire que sous ces noms se cachent de vraies intuitions sur ce que l'art moderne et contemporain est en train d'être et ce qu'il va devenir. Et donc on s'attache à travers l'exposition à montrer comment justement Isou n'a pas été simplement l'inventeur de mots, mais aussi de concepts qui ont eu une réalité à son époque et puis aussi parfois plus tard.
Alors ces mots, justement, alors évidemment on va tâcher de débroussailler un peu quelques-uns de ces concepts, mais évidemment une émission n'y suffirait absolument pas. Mais vous avez évoqué justement tous ces termes, tous ces néologismes qu'il a pu utiliser, donc qui rendent évidemment l'accès un petit peu compliqué. C'est aussi le cas, par exemple, de poèmes, enfin même du lettrisme à proprement parler, hein, avec cette idée quand même de quelque chose soit d'indicible, soit d'illisible, soit d'incompréhensible. Quels pourraient être les enjeux, au fond, de cette dimension-là ?
Mais peut-être du coup, par rapport à cette question de l'indicible, il faut dire qu'au départ, le lettrisme, donc Isidore Isou présente la chose en disant qu'il a détruit le mot en découvrant l'atome du langage, savoir la lettre. Et il veut déconstruire le mot parce qu'il dit que le mot aide les vieux à se souvenir et oblige les jeunes à oublier. Donc le mot, en fait, ne permet pas à la jeunesse de l'époque de vraiment s'exprimer, de trouver leurs moyens d'expression à un moment où nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale, après la résistance. Beaucoup de lettristes ont participé à la résistance. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, sont aussi d'origine juive. Donc il y a une double mémoire, en fait, dans ce mouvement qui agit. Et donc, dans cet après-guerre, il y a le sentiment de devoir trouver un langage aussi aussi dans un territoire qui est culturel et politique, qui est perçu comme saturé. Parce que d'un côté, il y a plusieurs personnalités des avant-gardes d'avant la guerre qui sont présentes. André Breton est là, Tristan Tzara est là, Iliazd, Albert Birot, et Haussmann depuis Limoges qui est aussi très présent dans les milieux. Il y a Sartre avec les temps modernes. Il y a le Comité national des écrivains lié au PCF qui est aussi très présent sous la houlette d'Elsa Triolet et Louis Aragon. Bref, donc le territoire germano-prétain est riche et en même temps saturé pour cette jeunesse, et donc il y a ce désir de trouver une expression originale et puis d'aller dire ce qui n'est pas encore audible, ce qui n'est pas du coup encore discible, de dire les infra-réalités, comme le dit Zou dans l'introduction Nouvelle Poésie, Nouvelle Musique.
Je repense à cette phrase drôle et en même temps assez incroyable dans une des revues qui dit « La poésie supplie le lettrisme d'exister ». Oui, et j'imagine que c'est une phrase d'Izou, et peut-être rappeler effectivement que les lettristes, en tout cas dans un premier temps, sont de très très jeunes gens. Les premiers même qui viennent se rallier parfois sont presque encore des adolescents.
Hein. Il y a 16 ans. Quand il arrive. Hein.
De Boer est aussi jeune lorsqu'il rencontre Isidore Izou à Cannes. Ce qui est aussi intéressant, bien sûr, mais en même temps plus banal à dire, c'est que cette attitude des lettristes et d'Izou, elle est aussi conforme à une stratégie assez classique des avant-gardes, qui est l'idée qu'on se présente comme l'aboutissement d'une certaine évolution et en même temps, évidemment, le point de rénovation totale de cette évolution. Et Isidore Izou va observer une décomposition extrêmement précise et tout à fait d'ailleurs juste de l'histoire de la poésie, en observant que depuis Baudelaire qui, je cite, a détruit l'anecdote pour la forme du poème, jusqu'à Isidore Izou, en passant évidemment entre-temps par Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, la poésie se décompose dans ses particules les plus élémentaires, et c'est évidemment à Izou qui apparaît au bout de cette chaîne qu'incombe la responsabilité de la renouveler intégralement.
Il l'écrit de façon très limpide, hein. Il dit « À partir de Baudelaire, tous les poètes n'ont été que des degrés vers Izou ».
Exactement. Donc c'est la radicalisation et la formulation de façon provocante et limpide de justement cette façon dont les avant-gardes, dans tous les domaines, que ce soit les arts plastiques ou la poésie, ont voulu s'inscrire dans l'espace des arts à travers justement l'affirmation d'une place ultime dans un processus et le début, encore une fois, d'une possible rénovation. Et Isidore Izou va porter cette idée à un degré absolument inouï, à mon sens, puisque contrairement à d'autres mouvements d'avant-garde comme le futurisme, par exemple, il va vraiment considérer cette action dans la durée. On sait bien que les futuristes, c'est un mouvement qui a été extrêmement incandescent et les manifestes futuristes ont duré le temps qu'ils ont duré, c'est-à-dire finalement peu de temps. Isidore Izou a vraiment la volonté d'inscrire sa pensée dans l'éternité, en quelque sorte, et surtout de ne pas se contenter de rénover la poésie, mais aussi tous les arts et aussi toutes les branches de la culture à travers cette idée donc de cladologie, qui est encore un autre néologisme reposant sur le grec ancien, qui est cette idée que, à partir donc des découvertes izouïennes, on va pouvoir rénover, réinventer la façon dont le savoir se forme.
Alors, exposer Izou, ça n'est pas mince affaire, vu le matériau et vu justement le caractère totalisant de son programme, de son œuvre. Donc j'imagine que ça n'a pas été mince affaire pour vous, parce qu'évidemment on y trouve alors masse de manuscrits, bien sûr des poésies déclamées, même si l'exposition, alors on peut le regretter ou pas, est relativement silencieuse. On peut écouter quelques poèmes au casque, on peut écouter également au casque ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux film d'Orson Welles. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre peut-être à avoir une exposition moins sage. On y entend néanmoins, dès qu'on entre dans l'exposition, évidemment, un film qui est le film manifeste du lettrisme, le premier, projeté en 51 en marge du Festival de Cannes, le traité de bave et d'éternité.
Il y a tant de films chaque semaine d'où l'on sort aussi crétin que l'on y est entré. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. Je ne suis pas payé par un oculiste pour lui amener des clients. Mais je préfère vous abîmer les yeux que de les laisser indifférents. Vous êtes une bande de crétins dans l'ensemble. Mais peut-être y en a-t-il un seul qui comprenne. Et c'est pour lui que je divague. Du point de vue de la photo, je ferai foudre la pellicule en l'air avec des rayons de soleil. Je prendrai des chutes d'anciens films et je les rayerai, je les écorcherai pour que des beautés inconnues paraissent à la lumière. Je sculpterai des fleurs sur la pellicule. Je voudrais un film qui vous fasse mal à l'œil, réellement, comme durant le déroulement de ces vieilles projections qui se coupent et se détruisent, et où l'on voit les numéros 1, 3, 5, 7 à toute vitesse. Mais je sais que le cinéma se nourrira de l'excrément de ses propres photos, ou alors il se figera dans le pompiérisme académique qu'on appelle Hollywood, l'URSS ou l'Italie. Tous les imbéciles du monde, unissez-vous.
Voilà qui est dit, donc un extrait du traité de Bave et d'éternité, signé Isidore Isou, hein, avec cette fameuse disjonction entre ce qui est dit et ce qui est vu, entre le son et l'image. Je pense par exemple à ces images d'actualité, hein, dans lesquelles on voit Daniel Delorme, ou des images trouvées, ou des images tête en bas, mais également des pellicules grattées, raturées, ciselées, donc hein, le fameux principe de Isou. Et puis il y a cette bande-son du protagoniste Daniel, là, qu'on entendait, et puis évidemment des profanations de poèmes et de quelques principes. Alors de faire du cinéma un centre, si ce n'est le centre de leurs préoccupations, là on est en 51, hein, pour le coup, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi placer le cinéma au cœur de leur quête, et ce, dès le début, ou presque, hein?
Le cinéma fait partie de ces disciplines que les lettristes veulent renouveler. Et si en effet dans l'exposition, nous ne montrons pas le film à son juste volume, et si nous ne pouvons pas rendre compte de son côté formidablement éruptif, c'est aussi parce que les lettristes mettent le musée, les grands musées publics au défi de cette éruptivité, et pour des questions de normes d'hygiène et de sécurité, nous ne pouvons pas malheureusement faire écouter la poésie lettriste et le dit lettriste au juste volume qui évidemment siérait à cette forme d'art. Pour ce qui est du cinéma, il fait donc partie d'une des disciplines à laquelle il s'intéresse, du moins. Isidore Isou va considérer plutôt que certaines disciplines comme le théâtre et le cinéma sont des disciplines qu'il convient de plonger dans une dimension ciselante. Donc, à l'instar de la poésie ou de la peinture qui, de par elles-mêmes, se sont purifiées, ont été donc ciselées par leur propre histoire. Isidore Isou va vouloir forcer l'entrée dans le cinéma, du cinéma dans cette période ciselante, et donc accélérer sa décomposition. C'est pourquoi il va s'attaquer littéralement à ce que le cinéma avait construit, à sa dimension représentationnelle, en ciselant la pellicule, donc en faisant monter la matérialité même de la pellicule filmique. Il va en effet disjoindre le son et l'image, histoire de, encore une fois, faire aller le cinéma vers ses éléments essentiels dans l'attente d'un renouvellement qui sera là encore opéré par lui et par le lettrisme. Il va s'attaquer de même au ballet, au théâtre et à de nombreuses autres disciplines artistiques.
Créer alors d'une certaine façon une sorte de cinéma sans image, ou en tout cas renverser les hiérarchies, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée quand même d'un son subordonné à l'image, et d'une certaine façon, avec cette façon de disjoindre, il va renverser un petit peu cette hiérarchie. Qu'est-ce que ça voulait dire que de s'attaquer précisément à l'image?
Il s'agissait toujours pour Isou et pour les lettristes de s'attaquer à un art pour faire autre chose. Donc par exemple s'attaquer au cinéma pour faire de la radio. À un certain moment on l'entend dans le film. Mais l'image en même temps elle n'est pas évacuée de ce film. C'est pas parce que Isou donne toute une grande importance au son que du coup l'image n'est plus importante. Au contraire, elle acquiert du coup une dimension plus grande, voire infinie. Parce que cette disjonction entre le son et l'image permet aux spectateurs de créer les rapports qu'ils souhaitent, que ce soit des rapports qui sont vraiment dans le film ou un état potentiel imaginaire. Et donc c'est redonner aux spectateurs une puissance de création. Voilà, ça c'est très important. Et puis, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir un instant, c'est que dans le film, on voit pendant presque 30 minutes, Isou, et d'autres lettristes qui se promènent dans Saint-Germain-des-Prés et donc on voit comme ça les, des passants, on voit la vie de Saint-Germain-des-Prés à l'époque, on voit la, la cloche de Saint-Germain détruite par la guerre, on voit plusieurs passants qui regardent dans la caméra, etc. Et puis on voit Isidore Isou qui se balade comme ça, son but, à la différence des autres qui ont, évidemment, ils vont quelque part. Et puis aussi d'autres lettrices qui, comme ça, marchent très lentement, se lancent de regard, mais on ne sait pas trop, un peu comme dans un film d'espionnage. Et en même temps, on entend à la bande son ces poèmes lettristes. Il y a, j'ai l'impression, comme une relation qui se tisse entre cette divagation dans la ville et puis cette divagation dans la langue, où il s'agit de trouver d'autres chemins dans le langage. Il s'agit de le déconstruire, de l'épeler et de peut-être trouver une unité, justement, entre le son et le sens.
Ça voulait dire quoi? Alors justement, ça voulait dire trouver à ce moment-là, donc, et vous l'avez rappelé, hein, on est vraiment au lendemain de la guerre, ça voulait dire un anti-langage, ça voulait dire un langage inédit, ça voulait dire un langage originel.
Tout ça à la fois, je pense, parce qu'il y avait à la fois un désir de destruction du langage qu'on connaît et puis la recherche d'un langage où justement l'arbitrarité ne serait plus là. Ce qui est étonnant, c'est que Isou dit de séparer justement le son et le sens, mais on dirait qu'il s'agit de retrouver le sens par le son et donc par le corps. Retrouver aussi le corps du langage et le corps du poète. Parce que dans le poème, c'est aussi tout ce qui fait poème, c'est pas uniquement les lettres, comme dit Isou, mais aussi claquement de mains, le bruit de bouche, salive, articulation, etc.
Tout sautement, crépitement, crachat, sifflement, aspirer, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'une corporéité, en effet, Christine a tout à fait raison.
Et donc ça veut dire que ça part du corps et qu'à un moment donné, si le poème doit regagner le livre, ou la page, ou la toile même, ce qui est le cas avec Isou, il a bien fallu à un moment donné trouver une façon de noter, d'annoter, j'imagine, toutes ces lettres. Donc du coup, ça fait du poème dans la page, hein, du poème dans le livre, ça fait de lui une partition.
Oui, et souvent une partition qui met en tension la profération, parce que c'est souvent des partitions qui sont très compliquées à déchiffrer. Et c'est volontaire, parce que justement, il s'agit de ne pas être comme ça dans une lecture, dans l'habitude de lire vite des mots qu'on connaît, mais au contraire, déchiffrer lettre après lettre pour être dans le présent et dans l'inventivité, disons. Donc le poète lettriste et le lecteur d'un poème lettriste est forcément quelqu'un qui récite et qui déchiffre. Et ce déchiffrage, c'est paradoxalement peut-être une manière d'être dans le corps, dans le présent.
Mais c'est tout de même frappant de voir que Isidore Isou donne les codes et les clés d'interprétation de ses poèmes, puisque les mots que je citais, enfin la liste d'actes corporels que je citais précédemment, est tout à fait précisément notée, correspond à des signes très précis. Et lorsqu'on connaît les clés, on peut, lorsqu'on lit ces partition a priori insensée qu'écrit Isidore Isou, lorsqu'on connaît les clés de décryptage, on réussit à interpréter de façon allographique la poésie d'Isidore Isou. Donc il y a l'idée quand même que la poésie lettriste peut être prise en charge par d'autres personnes qu'Isidore Isou lui-même, ça me paraît tout à fait intéressant de ce point de vue. Il y a aussi l'idée, et qui me semble passionnante et que Christina a déjà mentionné, que le signe n'a plus seulement vocation à être interprété de façon orale, mais à être aussi regardé, contemplé. Et c'est ce qu'on va trouver dans toute la série de peintures qu'Isidore Isou crée à partir du début des années 50, qui sont à la fois des textes qu'on est censé pouvoir décrypter, des textes parfois qui se présentent sous la forme du rébus, où on mêle différents régimes de signes, à la fois les signes alphabétiques et les signes pictogrammatiques, mais qui sont aussi des tableaux en soi, donc des œuvres qu'on peut se contenter de regarder, dont on peut se contenter de se délecter, et qui annoncent de ce fait, en quelque sorte, à mon sens, pas mal de découvertes qui viennent plus tard, notamment dans le domaine de l'art conceptuel ou autre.
Peut-être juste une toute dernière question qui nous ramène très, très, très en amont, parce qu'on a peu d'informations. Alors même si tous les textes d'Isou sont travaillés par le biographique, l'autobiographique, simplement un mot sur « Il arrive à Paris en 45 ». On sait finalement très peu de choses sur le Isou qui précède 45, juste avant son arrivée. On sait juste cette légende de Isou arrivant avec sa valise, et dans sa valise, ses fameux manuscrits, où il y aurait déjà en préparation tout le programme à venir, tout le programme totalisant à venir. D'où vient Izou, finalement, que nous on fait naître en 45 à Paris, d'où vient-il? Comment est-il arrivé ici? Je vois que vous avez des difficultés à répondre, parce que,
en fait, il y a... L'agrégation d'Annon et d'Amessi, qui est son roman autobiographique, et c'est l'autre manuscrit qui est dans sa valise quand il arrive à Paris en 45, et qui est tout de suite publié aussi par Gallimard avec introduction, une nouvelle poésie, une nouvelle musique. Donc, en fait, Isidore Izou, quand arrive à Paris, se présente avec l'introduction à une nouvelle poésie, à une nouvelle musique, mais aussi à un roman où il se présente lui-même comme un messie. Et il vient de, donc, de Roumanie, de la région de la Moldavie, d'une famille juive.
Exactement. Et les cahiers manuscrits que vous citiez précédemment, les cahiers dits de Roumanie, ils existent bel et bien. Ils sont écrits en roumain et notre collègue Mika Gergescu les a décryptés. Elle a d'ailleurs écrit un article tout à fait passionnant
dans le catalogue
sur ce sujet. Et elle montre bien justement combien Isidore Izou, lorsqu'il est à Bucarest, participe à des publications de la communauté juive, aussi à l'idée d'un théâtre juif, et comment elle participe au lancement d'une revue d'avant-garde qui s'appelle DA avec Serge Moscovici. Donc on sait tout de même que en Roumanie, bien que très jeune, adolescent, Isidore Izou est déjà très investi.
Mais on sait comment il a traversé la guerre, on sait, est-ce qu'on a des informations biographiques plus fines, plus précises.
Tout cela reste teinté de mystère et d'ambiguïté, beaucoup de légendes circulent. L'ouvrage que citait Christina, L'agrégation d'un nom et d'un messie, est un ouvrage biographique, mais sans doute largement romancé. Donc tout cela fait bien sûr partie de ce mythe extraordinaire qu'Isidore Izou a construit.
Nicolas Liucci, Goutnikov, Christina, Simone, Arthur H, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Ouais, ce qui me frappe aussi, c'est que dans l'écriture de la Torah hébraïque, il n'y a pas de ponctuation et chaque lettre est un monde aussi en soi, quoi.
Oui.
Dans un mot, la lettre est littéralement un monde à découvrir et le mot, du coup, quelque part, il vient de là aussi, non?
Oui, c'est pour ça.
Quelque chose de
très probablement ancien, qu'il y a ce choix du mot lettre et pas de phonème, justement, parce que la lettre renvoie tout ça et ça renvoie beaucoup à la Kabbale. Et notamment à la technique de la permutation qui est pratiquée par la branche de la Kabbale, de la Kabbale mystique extatique, pardon. Ouais. Et donc, où il s'agit justement d'atomiser le langage et par là, retrouver la Torah sacrée en dessous de la Torah qui est écrite.
Du coup, il faut que j'étudie le H maintenant.
Le H.
Concentré là-dessus.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Frédéric Changenet, comme chaque semaine, avec la collaboration de Thierry Beauchamp et François Connac à la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités Isidore Izou, et elles sont nombreuses, au centre Georges Pompidou, ainsi que les dates de concert d'Arthur H sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure, et c'est bien, de la méthode scientifique avec Nicolas Martin.